Ouais. Gina Rey, on connaît, c'est bon?
Mon genou, ça fait un gros crack, moi aussi. Ça va être trop facile. Il est où le machin?
C'est Michel. C'est Michel qui fait les annonces. Il faut soulever ça un peu ou non? Non, ça va? Ok, très bien. Salut vraiment.
Il m'a allongé un peu.
Je crois parce que c'était un peu loin. Oui. Et puis on fait comme ça. Oui, oui. C'est très bien. Merci.
La technique est prête ? La technique est prête, la technique... On commence par les annonces, aujourd'hui. Ce dimanche, les annonces du dimanche 24 avril. Oh, mais la technique n'est pas prête. Voilà, les... alors, première annonce, voilà, on va débuter une préparation au baptême. Vous êtes, si vous êtes intéressé, non seulement pour, dans le but de vous faire baptiser, mais parce que vous voulez savoir plus précisément ce que ça signifie, ce que ça implique, vous pouvez prendre contact avec Roger, et puis il vous communiquera les dates qui sont prévues pour des rencontres. Mardi soir, il y a donc ces différents mardis soirs, il y a des successions de rencontres à l'aula de l'école des Boudines dans le cadre du 40 ans du centre paroissial œcuménique. Ce mardi, il y a une rencontre, Être juif aujourd'hui, avec ce ferreur, le rabbin Garay. Vendredi 29 avril, à l'église évangélique de la Pélisserie, mariage et célibat, une conférence avec Michel Yonner, qui est le professeur d'éthique de la faculté Jean Calvin. C'est la faculté d'Aix-en-Provence. Et la mise en pratique, samedi 30 avril, le mariage de Lydie et Niki à l'église de Lille à 14h30 et l'apéritif à Sèvry. Samedi 30 avril également. Vous verrez que samedi 30 avril, c'est une date vraiment... extrêmement, vous pouvez faire tout plein de choses. Le marché aux puces de l'Escale. L'Escale, c'est ce magasin de seconde main qui est une émanation de notre fédération d'église qui permet de rendre, de procurer des aides et des soutiens aussi ici, mais aussi à l'étranger. Alors, 30 avril, le marché aux puces. Et 30 avril également, la conférence du réseau scientifique des évangéliques, le réseau des scientifiques évangéliques, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Hommes-femmes, quelle différence ? C'est à la FRAT, à l'église de la Fraternelle à Nyon. J'ai ici quelques tirés du flyer. Il y a vraiment des intervenants de très haute qualité, professeurs aux universités de Berne, chefs de service au CHUV, etc. Si vous êtes intéressé, je mettrai ces documents à la sortie. C'est matin dès 9h30 et c'est de préférence sur inscription. Dimanche 1er mai, nous vivrons un culte particulier autour de l'action de Service Pâques. Et puis, Service Pâques nous offre le repas. Mais pour leur faciliter la tâche, merci de vous inscrire. Il y a des feuilles sur le tableau à la sortie. Et après le repas, les jeunes du groupe CTT nous mettront en place des ateliers de différentes natures pour en fait entrer en contact. C'est aussi une manière de vivre l'Église différemment. Donc le 1er mai, après le repas partagé communautaire. 7-8 mai, Free Time, qui est ce groupe de jeunes adultes, organise un week-end à la Villa Emmanuel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner auprès de Benjamin. Alors là, on vise déjà plus loin, potentiel. C'est une animation pour les enfants ados 7-14 ans qui aura lieu à Cologny. Mais les inscriptions, donc première semaine de juillet, les inscriptions sont déjà à rendre. Donc, si vous êtes intéressé, merci de prendre contact directement au travers du site, j'imagine, potentiel.ch. Merci. avec le mémo. Voilà. Alors, à la sortie, il y a les enveloppes avec le PV du colloque ainsi qu'une communication du conseil. Ça a été tellement vite que je ne savais pas qu'elle serait déjà là. Merci à Zena pour ce travail.
Merci pour ces annonces. Je crois que c'est prévu que les enfants soient accueillis en bas si ils ne sont pas déjà descendus. Je crois que Lydie et Nicky avaient aussi une communication à faire en direct.
Alors, bonjour tout le monde. Je vous présente Nicky, qui est maintenant mon mari depuis vendredi. Donc, je suis maintenant Madame Chan. Et puis, comme ça a été mis dans les annonces, on se marie à l'église samedi prochain, le 30 à Lille, à 2h30. Et vous êtes tous les bienvenus pour cette célébration. Alors, voilà. Merci.
Je lis quelques mots du psalmiste. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Mon œuvre est pour le roi. Peut-être c'était pas écrit à 16 heures d'un dimanche matin. Donc, pour que notre cœur soit tout vibrant de belles paroles, nous allons prier le Seigneur. Nous voici devant toi, notre Dieu, notre Père céleste, confiants de ton accueil. Nous te prions de verser dans nos cœurs ton esprit, afin que nous puissions vraiment être rappelés, convaincus, que tu, la grâce est sur tes lèvres. Tu nous parles de ton amour, de l'offre de ton pardon, de la vie que le Seigneur Jésus est venu nous apporter, pour la transformation que tu opères dans des cœurs qui se tournent vers toi. Béni sois-tu pour ta présence. Nous voilà, nous sommes à ton écoute. Parle à nous, parle à nos cœurs. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Mon œuvre est pour le roi. Vibrant de paroles très belles parce que c'est la grâce qui est sur les lèvres de notre roi. Donc nous vivons notre culture sous le signe de sa grâce. Et je cède directement ma place à l'équipe qui anime ce premier temps.
Là, on va passer un temps de louange avec notre Seigneur. Je vous invite à vous lever ou rester assis, comme vous l'entendez. Et je vais juste commencer par prier pour mettre ce temps de louange. Ma Seigneur, ce matin, on sent que tu es là, on est là pour toi. Et puis, on veut vraiment venir devant toi, se prosterner, te donner tout notre cœur et te montrer à quel point on t'aime, Seigneur. Et à quel point on te remercie parce que ton plan, il est parfait pour nos vies. Amen.
Nous venons dans ta présence. cela pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour leur liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi.
Tu m'es Thank you.
Toi seul qui me supplie, Seigneur, parce que t'es là, et puis même si tout va pas, même si tout va mal, tu restes là et t'es notre appui, t'es notre caverne dans laquelle on peut se réfugier, un abri, une couverture sur laquelle on peut avec laquelle on peut se couvrir dans les cas de tempête. Merci parce que t'es toujours là pour nous. On va passer un moment de prière libre. Ceux qui veulent rester debout peuvent rester debout. Ceux qui veulent s'asseoir parce qu'ils sont plus à l'aise peuvent s'asseoir. Sentez-vous libre. Et continuez toujours à jamais de louer notre Seigneur. Merci Seigneur, parce que peut s'abriter, dans ta maison, et puis qu'on peut toujours vivre avec toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait, tu nous as formés, tu nous connais, tu nous aimes tel qu'on est. Et ça, personne d'autre que toi peut le faire. Amen.
Notre lecture sera dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25. C'est la lecture qui prépare la prédication de Sylvain Dupertuis. C'est à partir du verset 31, ce serait en trois voix.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite.
Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, J'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. »
Alors les justes lui répondront : «
Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ?»
Et le roi leur répondra : «
En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : «
Allez-vous-en loin de moi, maudit au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses gens, anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. »
Alors eux aussi répondront : «
Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ? »
Alors il leur répondra : «
En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. »
Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle.
Voilà, bonjour. Tout d'abord vous dire, je crois que ce n'était pas le bonjour pour moi pour être là. Mais voilà, c'est d'abord un peu la faute de Lydie. Parce qu'il semblerait que ses parents soient un peu occupés pour préparer un certain mariage. Et puis c'est pour ça que Roger m'avait demandé de prendre la prédication de ce matin. Et puis quand il a su, mais pas moi, ce qui allait arriver hier soir, il a essayé de m'en libérer, mais voilà, comme j'étais dans l'ignorance totale de ce qui se passait ici hier soir, eh ben voilà, j'ai quand même gardé ce mandat. Alors merci à ceux qui sont venus, parce qu'effectivement j'ai mes enfants qui m'ont organisé une surprise pour le passage d'une certaine dizaine d'années, qui est en fait dans 16 jours depuis aujourd'hui. Voilà, donc comme c'était un peu à l'avance, ma belle-fille a réussi à m'embobiner complètement. Donc merci à ceux qui étaient là hier soir pour cette fête qui était organisée sans que je sache rien. Et voilà, donc j'y suis pour rien, mais merci à tout le monde, à ceux qui étaient là. Et merci au Seigneur pour tout. Voilà. Alors ce texte qui a été lu tout à l'heure, qui est un texte qui est très connu, je l'ai pris parce qu'on l'a partagé à Lausanne dans un groupe il y a quelque temps. Alors avant de le commenter, juste une petite question. Quand on vous parle d'un chrétien ou d'un catholique ou d'un protestant pratiquant, qu'est-ce qu'on entend en général par le mot pratiquant ? Aller à l'église, ok. D'accord, la communion, aller à l'église. Hein, c'est un peu ça, un pratiquant. Puis les non-pratiquants ? Ceux qui mettent les pieds juste une fois à Noël. Voilà, donc c'est question de mettre les pieds à l'église ou pas. Hein, voilà. Et puis quand je suis au Laos, des fois ça me chicane un petit peu que quand si on demande à monsieur tout le monde ce que c'est qu'un chrétien, la première chose qui vient, c'est ils boivent pas puis ils fument pas. Ce qui est, c'est très bien, hein, de ne pas boire et de ne pas fumer, mais c'est... Voilà, des fois je trouve un peu dommage que ça soit ça qui apparaisse un peu presque comme la définition d'un chrétien. Et puis dans le monde d'aujourd'hui, quand on parle des problèmes que pose la religion, qu'est-ce qui vient en premier? Le voile, les problèmes d'alimentation dans les cantines. Voilà. Ok, juste cette petite introduction. Voilà ce qui se cache derrière le fait de pratiquer une religion dans un peu, voilà, autour de nous. Maintenant, ce texte qu'on vient d'entendre, je ne sais pas comment, quel écho il évoque en vous. Quand on l'a partagé dans ce groupe à Lausanne, parmi les réactions qu'on avait à ce texte, il y en avait deux, que vous avez peut-être. C'est pas très facile, ce tableau noir et blanc. Il y a les justes d'un côté, puis les méchants qui vont en enfer. Et puis, notre réalité, souvent, pas comment vous la percevez, mais il me semble que c'est plutôt des nuances de gris. Il n'y a pas tellement des gens tout noirs ou tout blancs. Voilà, ça, c'est une difficulté qu'on a avec ce texte. Et puis l'autre, en rapport avec la foi, si on lit ce texte, mais en somme, on nous a toujours appris qu'on était sauvé par la foi. Alors, est-ce que ce texte nous laisserait entendre qu'on est sauvé par les œuvres? Non. Question, hein? C'est juste, voilà, des réactions qu'on a face à ce texte. Alors, pour essayer de voir un petit peu quelle est la perspective, on peut remarquer que ce texte, il se situe dans la dernière série de discours dans l'évangile de Matthieu qui concerne un peu la fin des temps. En tout cas, c'est comme ça qu'on le décrit. Et je vais vous lire le début de toute cette séquence à laquelle ce texte appartient. C'est au chapitre 24. Jésus était sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Et prenant la parole, il leur dit, « Vous voyez tout ça, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent, « Dis-nous, quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» À la question des disciples, et après, il y a le chapitre 24 et le chapitre 25 qui se terminent avec le récit qu'on a lu. Alors, quel est l'objectif et la visée de ces textes? Dans ma jeunesse, on était assez friands des prophéties. Et puis, on fouillait beaucoup la Bible pour y chercher toutes sortes de détails dans ces prophéties bibliques et les mettre en rapport avec les événements d'aujourd'hui. Et je me souviens de l'époque de la guerre des six jours, donc vous voyez que c'est il y a un certain temps, où voilà, c'était les signes annonciateurs du prochain retour de Jésus, et on était accrochés aux nouvelles de la guerre des six jours par rapport à l'interprétation des prophéties. Puis voilà, je pensais que c'était un petit peu démodé, cette manière de voir. Puis je me souviens qu'à Paris, quand j'étais à Paris, c'était entre 77 et 84, il y a un moment donné, où je ne sais plus quelle année c'était, mais un petit peu tous les journaux évangéliques ont repris une information qu'ils avaient trouvée, je ne sais pas où, mais c'était en Amérique, où ils expliquaient qu'il allait y avoir un alignement très spécial des planètes, que ça allait provoquer des cataclysmes, y compris faire basculer l'axe de rotation de la Terre. Mais c'était tellement bien tourné que les gens qui n'ont pas de formation scientifique pouvaient avoir l'impression que c'était sérieux. Et c'était repris, vraiment, c'est étonnant à quel point c'était repris dans les journaux évangéliques. Voilà, parce qu'on pensait que c'était un signe de la fin des temps. Puis voilà que l'année dernière, Je ne sais pas si vous avez vu, on a remis ça, tu peux peut-être, Manon, juste montrer. J'ai encore trouvé ça. C'est encore sur le site internet. Oui, oui, j'ai piqué ça hier soir. Révélation de la fin des temps. Enfin, hier soir, hier après-midi, pas. Septembre 2015, cette preuve irréfutable, la date de l'enlèvement de l'Église. Voilà. Voilà, alors on peut laisser ça. Vous comprendrez sans doute que je pense que c'est pas comme ça qu'il faut essayer de comprendre ces textes. Moi, je crois que la Bible me dit que notre histoire, elle a une origine et qu'elle va vers quelque part. Elle a un terme. Ça, c'est la vision biblique et c'est en contraste avec la vision bouddhiste qu'on nous a présentée mardi soir dernier, qui a une vision du monde cyclique. Ça a été d'ailleurs rappelé assez explicitement. Mais je crois que si Jésus nous parle de la fin des temps de cette manière, c'est avant tout pour aujourd'hui qu'il nous en parle. Le texte qui revient tout le temps dans le début du chapitre 24, c'est « Tenez-vous prêts ». Et c'est aussi un encouragement pour des temps difficiles. Et je crois que c'est ça l'objectif, c'est comment vivre aujourd'hui, comment être encouragé, parce qu'on sait qu'il y a le Seigneur avec nous maintenant, et le Seigneur au bout des temps, mais pas pour ni savoir le jour et l'heure, comme ça nous est dit explicitement, ni savoir à l'avance comment ça va se passer. Et peut-être on pourrait ajouter une chose, mais ça, c'est pas le temps de l'expliquer maintenant, mais je pense que quelque part, la fin des temps, c'est aussi au-delà du temps. C'est-à-dire que c'est dans une dimension qu'on est incapable de se représenter parce que nous, on est dans le temps. On ne peut pas se représenter quelque chose qui soit en dehors du temps. Mais je crois que la vie éternelle, elle est au-delà du temps. Alors, j'en dis pas plus, ça serait tout un développement à faire. Alors maintenant, je reprends juste ce récit du jugement qui est tout à la fin de cette séquence. Et là aussi, je crois que la Bible parle avec Jésus, parle avec des images de choses qu'on ne peut pas se représenter. Comme par exemple, si vous vouliez essayer d'expliquer ce que c'est que des couleurs à quelqu'un qui est né aveugle, vous pourrez essayer de faire des comparaisons avec des sons, mais ça ne lui fera toujours pas comprendre ce que c'est que des couleurs. Tant que vous n'avez pas vu des couleurs, vous ne pouvez pas les décrire. Okay? Mais je pense qu'il en est de même pour ce qui est de l'au-delà. Donc, Jésus parle avec des images qui sont familières à ses auditeurs, pas pour décrire les choses, mais pour parler d'une réalité qui est simplement hors de portée de notre capacité de représentation. La réalité, c'est que notre vie est reçue de Dieu. On l'a rappelé avec un chant tout à l'heure, j'ai remarqué, quand tu façonnais la terre, j'étais près de ton cœur. C'est ça qui était dans le chant, voilà. C'est très beau cette parole. On était déjà dans le cœur de Dieu au commencement. On n'est pas le produit du seul hasard. Et puis notre vie, elle va vers quelque part, vers ce jugement de Dieu. Et on en est responsable. On est responsable de cette vie qui est un cadeau que Dieu nous a donné. Et là encore, c'est aussi en contraste avec la vision bouddhiste dont on nous parlait mardi dernier, qui a aussi la vision d'une responsabilité, mais c'est ce karma impersonnel qui lie nos actes à ses conséquences. Ici, on est devant la personne de Dieu. Voilà. Alors, c'est vrai quand on pense, puis je reviens hier soir, puisque j'étais ici hier soir, et qu'on a refait un petit peu le parcours de un certain nombre d'années d'existence, et ben, on est à la fois émerveillé de voir voilà, beaucoup de choses, de ce qui se sont passées, de voir la présence de Dieu, et puis on voit aussi apparaître, comme quand on regarde un dessin de près, on voit apparaître les petits défauts. Et puis on repense aussi aux ratés. Mais voilà, je crois que ce qui domine, c'est quand même peut-être la reconnaissance au Seigneur. Mais effectivement, cette perspective jugement, on a envie peut-être de se poser la question, parce qu'on est toujours un peu curieux, mais alors, qui c'est qui sera sauvé ou pas? Ben, je crois que la seule réponse qu'on peut donner à ça, c'est que c'est entre les mains d'un Dieu, c'est pas le karma, hein, c'est entre les mains d'un Dieu qui est à la fois juste et aimant. Dire plus que ça, moi je ne saurais pas. Et je crois que ça nous suffit. Mais encore une fois, la visée de Jésus, ce n'est pas de répondre à une curiosité sur l'avenir, mais comme le reste vous dit, c'est « tenez-vous prêts », c'est de, la question ici, c'est comment est-ce que ma vie de chrétien s'exprime aujourd'hui? Et on voit que là, l'accent est mis sur quoi? Eh bien, sur ce qui reflète la manière dont Dieu est attentif aux plus faibles et aux plus pauvres. Comment ça, ça se traduit dans notre vie? C'est ça qui est mis en exergue. Et là, Jésus est tout à fait dans la ligne de plein de textes de Premier Testament, hein, l'Ancien Testament, la Bible de l'époque, sur ce qu'est un vrai culte, une vraie spiritualité, le souci de la veuve, de l'étranger, de l'orphelin. C'est des thèmes qu'on connaît bien. Alors, on pourrait être tenté de se dire, mais en somme, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Il y a plein de gens qui aiment leur prochain. Ben oui, il y a plein de gens qui aiment leur prochain. Et puis, après tout, s'ils sont des exemples pour nous, ben merci Seigneur. Moi, je ne veux pas les juger. Hein. Il y a aussi la question, ce qu'on appelle la sécularisation. Vous savez qu'il y a plein d'organisations qui sont nées avec un objectif chrétien au départ, puis qui se sont sécularisées. Après, on oublie un petit peu, on laisse un peu tomber toutes les références chrétiennes. Mais là encore, je ne veux pas dire ça pour poser un jugement. Finalement, je pense à la Croix-Rouge. Elle a été fondée à Genève par un petit groupe de gens qui étaient des chrétiens convaincus en 1863. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais près de la cathédrale, juste en contrebas, il y a une petite plaque qui rappelle ici se sont rencontrés et puis il y a les noms des cinq personnes qui ont fondé la Croix-Rouge. Puis c'est devenu une grande organisation qui n'a pas de référence chrétienne. Mais voilà, elle fait des choses extraordinaires qu'elle ne pourrait pas faire si elle était une organisation chrétienne. Et je crois que c'est aussi un fruit de l'Évangile. Donc je ne porte pas de jugement là-dessus. C'est une manière dont les fruits de l'Évangile se sont répandus dans le monde. Mais je pense que nous, on n'est pas appelés à ça. Nous, on est appelés à avoir notre référence chrétienne. C'est une question qu'on se pose quand, dans tout le travail qu'on fait au Laos, puisque j'en reviens, j'y fais allusion, hein, on a une ONG qui travaille au service de toute la population. On ne fait pas un travail d'évangélisation ou d'église, mais on indique sur notre site internet qu'on est une organisation chrétienne, on ose le dire. Même si c'est un pays où c'est très difficile vis-à-vis des autorités d'affirmer, on sait, ils savent qu'on est des chrétiens. Et donc on cherche les moyens les plus sages de témoigner et d'exprimer notre foi. Voilà. Alors, pour bien comprendre la visée de ce texte, on a parlé juste de ces dernières séries de discours. J'aimerais vous montrer un petit peu comment, puis là on pourra peut-être laisser la dia jusqu'à la fin. Matthieu a raconté l'histoire de Jésus comme un... Tu arrives à projeter la deuxième page? Bien, voilà. Alors, l'évangile de Matthieu, il est construit comme un super sandwich multicouche. Alors, c'est des couches, il y a cinq grands discours, Puis au début, il y a ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance. À la fin, il y a la mort et la résurrection, qui est un peu le cœur de l'évangile. Puis au milieu, il y a 5 grandes séries de discours. Et entre deux, on raconte les actes de Jésus. Alors, donc notre texte, il se trouve tout à la fin du dernier discours. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y a au début du premier discours ? Voyez. Par quoi ça commence les discours qu'il y a dans l'évangile selon Matthieu? La série de discours, c'est les béatitudes. Parce que la première série de discours, c'est le sermon sur la montagne et ça commence par les béatitudes. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont compassion, etc. On ne va pas relire ces textes. Mais rien que cette manière d'écrire l'évangile de Matthieu, ça nous montre à quel point les actes et les paroles pour Jésus sont liés, complètement liés l'un à l'autre, sont en harmonie parfaite. Et je crois qu'avec ce texte d'aujourd'hui, il nous donne un enseignement sur ce que est la vraie spiritualité. Alors Jésus, dans tout son parcours, il est confronté à une autre forme de spiritualité qui est celle des pharisiens. Pour les pharisiens, c'est des gens hyper religieux, hyper pratiquants. Alors, leur pratique, c'est basé sur des règles cultuelles, des règles alimentaires, des règles morales, des rites. Puis d'autre part, sur le temple, il y a un lieu très spécial de la présence de Dieu qui est le temple. Et Jésus, il vient un peu en contraste avec ça. Il invite à une spiritualité qui est basée, pas sur des règles, mais sur la relation. La relation plutôt que les règles, et le cœur plutôt qu'un lieu qui est le temple. Alors, dans le texte qu'on a lu, moi, je crois qu'il fait vraiment écho aux béatitudes qui sont au tout début, dernier récit du dernier discours avec le premier du premier discours, qui font écho l'un à l'autre. Et ces béatitudes, elles décrivent l'attitude de Jésus et l'attitude du disciple de Jésus dans ses relations. Alors, je reviens à cette question à laquelle on n'a pas répondu, parce que finalement, s'il suffit de pratiquer le bien, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on se lève le dimanche matin? Alors, si je reprends la vie de Jésus, Jésus, il a une spiritualité de la prière, de la relation vécue avec Dieu et avec la communauté. On le voit qu'il se retire pour prier. On le voit qu'il participe à la vie de la synagogue. On voit qu'il a longuement pratiqué la lecture des Écritures dans sa jeunesse. Sans doute pas après, parce qu'on n'avait pas des Bibles à lire chez soi à l'époque. Mais Jésus a passé de longues heures à lire les Écritures dans sa jeunesse. Et pour lui, il y a un lien étroit, indissociable, entre cette relation avec Dieu et sa relation avec les êtres qu'il rencontre. Ça veut dire que je ne peux pas recevoir la grâce de Dieu, être au bénéfice de sa compassion, sans que ça déborde sur les autres, sans être à mon tour compatissant envers mon prochain. Je ne peux pas recevoir le pardon de Dieu sans que ça m'incite, me donne la force de pardonner à mon tour. Alors, je reviens encore une fois au récit avec une chose qui est surprenante. C'est que les gens sont complètement surpris. Ils tombent des nues. Qu'ils aient fait ou qu'ils aient pas fait ceci ou cela. Les uns comme les autres. Mais quand donc t'avons-nous vu nu ou étranger, ou etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, c'est le signe que cet appel à la compassion qui est dans ce texte, ce n'est pas une règle de plus. Une règle de plus, ça pourrait nous écraser, puis ça pourrait être très culpabilisant. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie, je vais aider mon prochain pour que, pour qu'il m'aide à son tour, ou pour pouvoir lui témoigner de l'Évangile. Non, c'est juste l'expression toute naturelle d'une foi authentique chez ces gens. Ils n'ont pas fait exprès. Voilà. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, quand même, j'ai parfois le sentiment que ma compassion elle a tendance à s'user, à s'émousser, parfois à se refroidir. Puis des fois, on est tellement abreuvé de nouvelles, hein, à la télé, etc., que ça a presque l'effet contraire de nous rendre indifférents. Je ne sais pas si vous avez des fois ce sentiment. Hein. Voilà. Mais je crois que c'est justement pour ça que le culte et la prière sont nécessaires et indispensables. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier, de se lever le dimanche matin pour venir au culte, de louer Dieu, de l'adorer, que ça soit personnellement ou que ça soit ensemble en communauté. C'est pas parce que Dieu aurait besoin de nos prières et de nos louanges pour se sentir valorisé. Hein, il n'a pas besoin de ça. Mais on vient adorer Dieu et on vient lire la Bible ensemble. On vient chanter, c'est pour nous imprégner de ce cœur de Dieu. C'est pour qu'il puisse nous renouveler dans notre être intérieur, pour que l'amour, le pardon, la compassion puissent transparaître tout naturellement dans notre vie de tous les jours. Voilà la spiritualité à laquelle Jésus nous invite.
Un Dieu juste et aimant, sans contradiction. Je propose de prier avant de passer à ce moment de partage du pain et du vin où ces deux réalités sont réunies. Nous avons considéré, Seigneur, comment les uns les autres peuvent apercevoir, être tes disciples aujourd'hui. Nous te prions de ce que ce qui puisse apparaître à travers nos vies de tous les jours, c'est que nous marchons à la suite d'un Dieu qui est à la fois juste et aimant. Un Dieu plein de compassion, mais aussi un Dieu qui a ses rigueurs. Un Dieu qui est infiniment grand, mais merveilleusement proche. Nous te prions de continuer à nous parler par ta parole, de nous aider à l'appréhender d'une manière qui t'honore. Nous te prions de nous parler en prenant le pain et le vin, nous parler de ce jugement qui est là, de la réalité du pardon que Jésus est venu offrir. Seigneur, aide-nous à saisir l'immensité de ton amour et la responsabilité qui nous revient dans cet univers qui est réglée d'une manière parfaitement juste par le Dieu d'amour. Amen. Comment Dieu allait résoudre cette tension entre sa justice et son amour? Alors, tu as parlé des prophéties, et d'une manière étonnante, environ 600-700 ans avant la solution de la croix, voilà ce qu'est écrit le psalmiste, parce que nous essayons de saisir les solutions de Dieu, et tu nous as rappelé qu'on peut être facilement à côté de la plaque. Pas dans ces mots, mais c'était la portée de ce que tu nous disais. Voilà ce que dit le psalmiste par rapport à la solution qui allait être apportée. L'amour et la vérité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes. Qui aurait compris la solution de la croix en lisant cela à l'époque? Les solutions de Dieu vont toujours nous surprendre. Pour juste rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit par rapport à ce repas. Jésus prit du pain au cours du repas. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples, ceux qui le suivaient, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe. Après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. » Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Amour et justice de Dieu réunis dans la personne de Jésus livré pour nous sur la croix. Nous prions. Ce que tu as dit, Seigneur, ce que tu as fait, était toujours en parfaite harmonie. Pardonne-nous de ce que ce n'est pas notre cas. Nous te bénissons de ce que toi-même tu es descendu des hauteurs du ciel pour ouvrir la voie de la réconciliation. En toi-même, tu as acquis la justice en faveur de nous qui ne le méritions pas. Béni sois-tu de ce que ton amour est pleinement manifesté dans cet événement acquis une fois pour toutes. Et en toi, Seigneur Jésus, nos péchés sont pardonnés et nous sommes réconciliés avec le Père qui nous aime tant. Continue d'ouvrir nos yeux à ton amour manifesté en Jésus. Amen. Nous sommes donc invités à participer à ce repas si nous reconnaissons qu'en Jésus, la justice et l'amour de Dieu est réuni et accompli parfaitement. C'est l'invitation et à sa table de prendre le pain et le vin. Si quelques personnes peuvent nous aider dans la distribution, s'il vous plaît. Je rappelle que au centre des coupes, il y a jus de raisin plutôt que du vin. Et si vous désirez prendre la coupe, simplement de faire signe.
vous invite à prier pour terminer ce moment de Sainte Cène. Notre Dieu, notre Père, merci pour le don de Jésus, pour cette vie donnée, pour cet exemple. Seigneur, nous venons vers toi comme à la source de l'amour et de la compassion et de la grâce. Et nous te prions que cette source nous renouvelle dans notre vie et rejaillisse dans tous les aspects de notre quotidien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
J'invite le groupe de musiciens de monter. Voici ce que l'Éternel a commandé. Prélevez parmi vous une offrande pour l'Éternel. Ça, c'est les instructions que Dieu a données à Moïse, donc ça remonte à un petit moment. La conclusion de cette exhortation était dans le chapitre suivant. Chaque matin, on continue à porter des offrandes volontaires à Moïse. Et la conclusion, le peuple en apporte plus qu'il ne faut. Ce n'est pas encore notre cas. Donc, nous allons quand même avoir l'offrande et nous allons chanter pendant que l'offrande soit recueillie.
Vous avez tous à vous lever.
Je vous invite à rester debout. Merci. Seigneur, accorde-nous de pratiquer ta justice d'une manière aimante, et pour cela nous invoquons la puissance de ton esprit afin que nous puissions te refléter dans ce monde aujourd'hui. Le Seigneur vous bénisse richement afin que nous puissions ensemble marcher dans ses voies à la gloire de son nom. Amen. Bon dimanche.